Eh bien, on continue à souligner ce mois ici à l'émission, et cette fois-ci, on s'intéressait en fait à une réalité dont on parle certainement pas assez. C'est la réalité que vivent les gens qui sont noirs et homosexuels. Mon invité, on va en discuter avec elle, parce qu'on a souvent le plaisir de l'accueillir ici en studio. Pour sa musique, qu'on aime beaucoup justement, qu'on a le plaisir de partager avec vous assez régulièrement. Cécile Doukingé, bonjour.
Bonjour.
Cécile, j'ai tout de suite envie, avant d'aller plus loin, de vous poser la question suivante. Le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, qu'est-ce que c'est pour vous?
Je vous avoue que je suis pas grosse fan de mois ou journées symboliques. Je pense que tous les jours devraient être une journée de prise de conscience. Mm-hmm. Mais c'est sûr que j'apprécie le fait que ça permette aux gens de mieux comprendre en fait les cultures noires.
Mm-hmm.
Donc de ce côté-là, c'est sûr que c'est positif. C'est sûr que j'espère aussi qu'un jour, on n'aura plus besoin justement des journées ou des mois dédiés uniquement à une cause.
Ouais. On a choisi aujourd'hui vraiment de s'intéresser à ce sujet, c'est-à-dire être noir et homosexuel. C'est une réalité qui est la vôtre. Hein? Est-ce qu'on parle de double identité? Je n'irai pas jusque-là quand même. C'est une identité, point.
Ben, je pense que tous les aspects de nos vies fait partie de notre identité. C'est sûr que être noir, c'est une réalité pour moi. Être femme, c'est une réalité pour moi. Être gay, c'est une réalité pour moi. De là à dire que chaque minute de ma vie, je les passe à penser à quel groupe j'appartiens, non. Sauf que c'est sûr que ça définit quand même qui je suis dans le monde.
Ouais. Je dois vous poser la question parce que vous faites partie des gens qui, curieusement, vous avez quoi? Vous êtes dans une quadruple minorité dans votre cas et linguistique en plus aussi en tant que francophone qui de temps en temps venez à Toronto, au Canada, francophone, noir, gay, femme également, ça fait beaucoup de minorités finalement.
Ouais, sauf que on choisit en fait ce qu'on décide à quoi on décide de se réduire. Puis je refuse de me réduire à un sous-groupe. Je m'identifie à tous ces groupes-là, mais je m'identifie en tant que personne. Et dans mon quotidien, j'agis et je choisis, je fais des choix en tant que personne et non en tant que gay, en tant que femme, en tant que noir, en tant que peu importe la minorité que vous voulez choisir.
Ouais.
Bon, c'est sûr qu'il y a des situations où c'est souligné. Ça c'est sûr.
Dans quel sens?
Vous savez, vous rencontrez des gens, puis tout de suite on est fait pour avoir des cases, les êtres humains. Donc on voit quelqu'un, puis tout de suite on sait t'es homme, t'es femme, t'es noir, puis t'es ce que tu veux. Et il y a des notions préconçues qui viennent aussi avec ces cases-là.
Ouais. Est-ce que le fait d'être noir et gay et femme, vous estimez aujourd'hui que ça a entraîné une forme de stigma plus régulièrement dans votre vie?
Stigma. Je sais pas si je dirais stigma, mais c'est sûr que j'en suis consciente. Surtout par exemple en voyage, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et autant on rencontre des gens extraordinaires et ouverts d'esprit, on rencontre aussi des gens qui n'ont pas eu la chance de rencontrer justement des noirs ou des lieux où la femme n'est pas nécessairement respectée telle qu'elle devrait l'être, où l'homosexualité n'est pas acceptée. Je peux vous dire que j'ai fait une tournée il y a pas longtemps où plusieurs communautés se sont manifestées contre justement le fait que l'homosexualité ait même été mentionnée pendant un spectacle. Donc y a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
Ouais, justement, au sein même des communautés noires, est-ce que vous trouvez qu'on accepte cette réalité aujourd'hui?
Je pense que ça s'accepte de plus en plus. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai remarqué que dans plusieurs milieux, mettons plus particulièrement africains, il y a beaucoup encore d'homophobie, surtout auprès des gens plus récemment immigrés. Je dis pas que c'est tout le monde, mais c'est quand même la réalité, c'est que c'est quand même l'un des continents les plus homophobes au niveau de l'acceptation, au niveau de la législation, et ça se traduit aussi lors de l'immigration. Donc c'est sûr qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire au niveau des différentes communautés noires. Ceci dit, il y a beaucoup d'acceptation aussi. Ça dépend des milieux. Je pense que peu importe que ce soit au niveau de, en tant que, peu importe les minorités, que ce soit au niveau de l'homosexualité, de la race, du sexe, de la langue, on va trouver des gens plus ouverts ou moins ouverts.
Ouais, Cécile, quand on vous écoute, on sent qu'il y a une forme de retenue dans ce que vous dites. Mais est-ce que on vous sent très poli?
C'est le côté diplomate que j'ai hérité de mon père.
Ben justement, je voulais pas le dire, mais clairement, ça semble être très diplomate comme propos. Mais
c'est sûr que est-ce que je vis du racisme? Oui. Est-ce que je vis de l'homophobie? Oui. Est-ce que je vis du sexisme? Oui. Est-ce que je vis de l'ignorance par rapport à la langue? Mm-hmm. Oui, depuis que je suis au Canada. Ce que j'ai trouvé bizarre, en fait, parce que j'ai choisi le pays justement parce qu'il est bilingue, et je remarque qu'il y a beaucoup plus de complexes au niveau de la langue que ce que j'ai bien pu vivre aux États-Unis en tant que bilingue. Donc oui, c'est sûr que il existe encore beaucoup d'ignorance. D'ailleurs, je l'adresse dans ma musique aussi.
Justement, vous le faites régulièrement par la musique. On a l'impression que c'est un moyen également pour vous de vous faire entendre. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses changent et que l'acceptation, pas juste des populations noires, hein, entendons-nous bien là, mais de tout le monde, soit égale? Parce que je sais que vous avez vécu également des problèmes, même dans l'Ouest canadien, c'est pas toujours facile non plus d'être accepté. Alors, que faudrait-il faire pour que les choses changent réellement?
Je pense que ça commence avec l'éducation et la législation aussi, mais surtout l'éducation et aussi d'être exposé en fait à justement une diversité sociale. Vous savez, on peut penser par exemple à tout ce qui est le Civil Rights Movement aux États-Unis. Autant il y a eu des lois qui sont passées au 19e siècle, au 20e siècle, puis il y a encore une réalité des lois Jim Crow qui restent. Et ça, c'est quoi? C'est deux générations, c'est trois générations. Ouais. Puis c'est un travail qui se fait à la longue. Et on pense aussi ici, il y a beaucoup de gens qui encore n'ont pas encore eu la chance de rencontrer, mettons, des Noirs ou des gays, ou d'être exposés à des images autres que des stéréotypes qu'on peut bien trouver dans les médias. Donc c'est vraiment une question d'éducation et de présentation plurielle des réalités.
Ouais. Cécile, je sais que vous êtes très occupée parce qu'il y a un nouvel album qui arrive bientôt. Je veux juste prendre quelques instants pour le mentionner parce que c'est le 23 la sortie de ce nouvel album. C'est Anybody Listening, signé Cécile Dukingé. Et je rappelle également que vous allez être de passage bientôt à Toronto encore une fois. Vous venez souvent ici. Ce sera le 12 mars au Not My Dog sur Queen West à Toronto. Cécile Dukingé, encore une fois, merci beaucoup pour cette générosité, Cécile.
Ça me fait plaisir. Et à bientôt.
À bientôt. Puis justement, on écoute Cécile en musique, tiens.
Je suis pas mal bordélique. orthodoxe en matière sexuelle, toujours ouverte aux explorations charnelles. J'accepte mon animal, j'accepte mon cartésien. J'ai enfin trouvé l'équilibre qui me convient, je suis bien comme ça. J'assume erreur, besoin, envie, je suis bien comme ça. Je n'ai pas honte de qui je suis, je suis bien comme ça. Curieuse d'où le vent peut mener. Bon gré, mal gré, je prends la vie en gré, je suis bien comme ça. Pas adepte de prise de tête.